Et bonjour, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors, nouvelle vidéo, on va commencer à faire des fiches de lecture de livres que je juge intéressants d'étudier. On va commencer par Alexandre Douguin, Pour une théorie du monde multipolaire, aux éditions Armania. C'est un livre qui est paru en 2013, que j'ai trouvé assez original, plutôt théorique, plutôt universitaire comme livre. On va en parler plus en détail. Alors, Alexandre Douguin, c'est un géopolitologue, un philosophe à succès dans son pays, qui est la Russie. Donc c'est un Russe qui développe une pensée assez originale qui vise à contrecarrer la domination doctrinale et militaire atlantiste, donc américaine, otanesque, qui est selon lui une domination mondiale. Bon, dans les faits, je pense qu'il a raison. Sa vision du monde multipolaire, ce qu'il appelle un monde multipolaire, c'est un monde avec plusieurs pôles de pouvoir et non pas un monde dominé par l'unipolarité américaine. Donc selon lui, le monde de demain doit être multipolaire pour permettre une meilleure stabilité du système international. Et selon lui, ce serait particulièrement bénéfique pour un renouveau de son pays, qui est la Russie. Alors c'est un eurasiste, même un néo-eurasiste. Donc l'Eurasie, c'est un espace géographique qui regroupe l'Europe et l'Asie. Et l'eurasisme, c'est une doctrine géopolitique qui considère que la Russie et ses voisins proches sont une ère civilisationnelle unique, qu'il faudrait unifier. Et sur cette base, Douguin plaide pour un processus d'intégration régionale propre à chaque civilisation selon l'ère géographique à laquelle chaque civilisation appartient. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il défend son concept de monde multipolaire qu'on va détailler un peu plus tard. Alors le monde multipolaire ou la multipolarité, c'est une théorie, c'est un concept de la discipline des relations internationales et elle est assez peu enseignée sur les bancs de la fac, en France en tout cas et en Belgique. Moi, j'en ai pas entendu parler plus que ça. J'ai entendu parler d'Alexandre Douguin, mais vraiment, on le survole pendant une minute maximum. Dans un cours de géopolitique, par exemple, on en parle très très succinctement, mais on n'ira pas plus loin sur ce personnage. Donc je pense que c'est intéressant de développer un tout petit peu. La théorie du monde multipolaire n'est pas étudiée, et certainement pas dans sa conception eurasienne, donc dans la conception d'Alexandre Douguin. Mais des chercheurs en relations internationales étudient très bien le concept. Donc on a Dario Battistella, Paul Kennedy, le célèbre Samuel Huntington, ou alors en France on a Pascal Boniface, qui parle de monde multipolaire. Mais il reste dans une conception strictement occidentale, et c'est là où Douguin est intéressant, c'est qu'il se détache, vu qu'il est russe et vu qu'il appartient à une école de pensée conservatrice, traditionnelle. Il arrive à s'émanciper d'une conception strictement occidentale. Donc pour lui, ce n'est pas normal que des concepts tels que la démocratie, l'économie de marché ou les droits de l'homme doivent être forcément étendus au monde entier, alors que des peuples, des civilisations, des nations peuvent ne pas se sentir concernés par ces concepts qui pour lui relèvent de l'idéologie et qui ne doivent pas être adoptés à l'universel. Donc lui propose un modèle alternatif au mode occidental. Mais ici, il décrit l'Occident, il ne dit pas qu'il faut détruire l'Occident ou quelque chose comme ça. Il dit que l'Occident doit vivre en Occident avec ses conceptions et que l'Occident laisse en fait les autres ères civilisationnelles, comme il les appelle, vivre tels qu'ils le souhaitent avec des concepts philosophiques, spirituels, moraux, économiques, historiques qui leur sont propres à chacun. Donc selon Douguin, le terme de monde multipolaire ou de multipolarité est un concept en vogue, mais qui est très souvent galvaudé, c'est-à-dire qu'il est employé dans les journaux, dans des recherches de relations internationales, il est employé par des chercheurs, des journalistes, mais il est un peu employé à tort, et donc la première partie de son livre consiste à définir déjà ce que n'est pas le monde multipolaire, pour un peu mettre les choses au clair. Donc il commence tout simplement par dire que la multipolarité, déjà, n'est absolument pas compatible avec un monde unipolaire actuel, selon lui, dominé par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide, donc depuis 1991. Ensuite, la multipolarité n'est pas non plus assimilable à un monde sans pôle, c'est-à-dire à un monde où émergerait un modèle de gouvernement mondial basé sur la coopération des acteurs étatiques et non étatiques. Les acteurs étatiques, donc c'est tout simplement les États-nations, et les acteurs non étatiques, eh bien c'est les ONG, c'est les mouvements citoyens. Un monde sans pôle peut être défini par le terme de non-polarité, c'est-à-dire une absence de pôle, qui amènerait certes à la disparition de l'unipolarité des États-Unis, mais pour privilégier au final des prises de décision mondiales pour l'humanité tout entière. Donc ça, selon Douguin, ce n'est pas une réelle alternative à l'unipolarité, mais une continuation, voire une accélération de la mondialisation à une échelle même supérieure. Donc dans un tel système non polaire, je cite l'auteur, « l'économie remplacerait le politique et la libre concurrence sur le marché mondial balayerait toutes les barrières douanières nationales. Ce serait l'ère de la démocratie mondiale. Je cite une autre phrase. L'humanité atomisée et individualisée serait transformée en une société civile cosmopolite et sans frontières. Donc vous voyez là, on est loin des termes, on est loin du lexique utilisé dans les universités françaises. Donc la multipolarité n'est pas compatible avec un monde non polaire ou un gouvernement mondial, pas du tout. Ce n'est pas non plus compatible avec ce qu'on appelle le multilatéralisme. Donc ça, c'est le terme qu'on entend tout le temps. C'est le sacro-saint dialogue et la collaboration entre les États, d'ailleurs démocratiques principalement, selon l'auteur. Donc dans ce système multilatéral, c'est toujours la diffusion du modèle démocratique et l'idéologie des droits de l'homme, érigée en valeur universelle, qui pose problème selon notre auteur. Donc en effet, selon lui, certains peuples, voilà, certaines populations, comme j'ai dit précédemment, peuvent ne pas se sentir proches ou concernées par ces concepts. Donc la seule différence avec la non-polarité, ce serait que la collaboration n'intègre pas en fait les acteurs non étatiques du style ONG. Donc Dugin postule que le monde multipolaire ne s'accorde pas avec le multilatéralisme, tout simplement car il ne reconnaît pas la légitimité de l'Occident à agir au nom de toute l'humanité. Donc ça, c'était ce que n'est pas le monde multipolaire. Donc dans la suite du livre, on voit maintenant qu'est-ce que le monde multipolaire dans ses fondements théoriques. Donc selon Dugin, le fondement théorique du monde multipolaire, c'est la remise en question des bases même du droit international. Donc contrairement aux chercheurs occidentaux qui travaillent sur la multipolarité, Alexandre Dugin conceptualise le monde multipolaire en tant qu'alternative de l'ordre international actuel qui est issu du traité de Westphalie. Donc le traité de Westphalie, c'est un texte qui a été signé en 1648 et qui a scellé la fin de la guerre de 30 ans en Europe qui a été sanguinaire, et à partir de là se pose la souveraineté absolue de l'État-nation dans le droit international. Ce qui veut dire que chaque État souverain a une égalité juridique censée mettre fin, en théorie, à la loi du plus fort. Donc tout le droit international actuel est construit sur cette base issue du traité de Westphalie. Mais dans la pratique, Dugin constate une inégalité fondamentale entre les États souverains, voire une subordination hiérarchique en fonction des pôles de pouvoir et en fonction des époques. Il donne l'exemple du système de Yalta de la guerre froide, donc un régime bipolaire entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS. Grosso modo, ces deux pôles dominent les relations internationales à cette époque parce que toutes les grandes décisions mondiales partent de ces deux pôles dominants et tous les autres pays suivent, grosso modo. C'est vraiment schématique. Donc dans les faits, et malgré le droit, tous les États dits souverains n'ont en réalité pas les capacités de leur souveraineté. Les capacités économiques, juridiques, diplomatiques, militaires. Et ça, je trouve que c'est vraiment le point le plus intéressant et le plus fondamental du livre d'Alexandre Dugin. Parce que, au final, le monde multipolaire tel qu'il le théorise se pose totalement, enfin, en rupture, ou pour une refondation en tout cas, du système westphalien qui établit une égalité stricte entre les États. J'aime beaucoup cette idée d'arrêter avec l'égalitarisme abstrait et de prendre acte en fait de la réalité que les États-nations ne sont pas égaux, vraiment pas, et loin de là. La multipolarité prend acte de ce fait et ne reconnaît pas aux États souverains le statut de pôle. Pour être un pôle, il faut en avoir la volonté et surtout les moyens, et ça, c'est bien dit et affirmé par Dugin. Donc dans un système international multipolaire, selon Dugin toujours, le nombre de pôles de pouvoir souverain devrait être sensiblement inférieur au nombre d'États-nations. Donc ça, c'est très intéressant et aussi pragmatique toujours, car dans le système international tel qu'il est et tel qu'il a été dans l'histoire, la grande majorité des États sont en réalité politiquement et économiquement dépendants d'une puissance extérieure, tout simplement, comme on l'a dit, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'assurer eux-mêmes leur prospérité ou leur sécurité par leurs propres moyens. De ce fait, ces pays ne représentent pas une volonté indépendante et souveraine dans le processus de prise de décision en politique étrangère. Donc la multipolarité conceptualisée par Dugin prend en compte cette inégalité fondamentale entre les États-nations et stipule que le concept de souveraineté issu de Westphalie demeure une fiction juridique qu'il s'agirait de réformer profondément. Donc voilà le constat que fait Dugin, et à partir de cette base, il tente de construire un concept réellement alternatif qui est la multipolarité dans une perspective eurasiste. Je dis réellement alternatif parce que notre auteur considère que la plupart des critiques du monde unipolaire américain ne contestent pas l'universalité de ce qu'il appelle les valeurs et les normes nord-américaines, par extension les valeurs occidentales, c'est-à-dire que quasiment la totalité des États-nations dans le monde conçoit la démocratie ou encore l'économie de marché comme le meilleur modèle à adopter ou alors le moins pire. Dugin plaide donc pour une vraie rupture et non pas un réaménagement du système, c'est-à-dire donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de pouvoir s'émanciper du monde matériel et spirituel occidental en défendant l'existence de pôles indépendants et souverains de prise de décision stratégique à l'échelle internationale. Donc les différents pôles, les différents centres de décision du monde multipolaire doivent pouvoir remettre en question les normes et les valeurs de l'Occident pour se considérer indépendant de l'hégémonie intellectuelle du monde unipolaire. Donc voilà, l'hégémonie, elle n'est pas seulement matérielle dans les faits, diplomatique, militaire, économique, elle est aussi intellectuelle. Donc pour lui, il faut vraiment remettre en question tout le bagage, tous les concepts occidentaux, la démocratie, l'antiracisme, les droits de l'homme, le libéralisme économique, le féminisme, etc., etc. Donc ce qui en fait un personnage assez sulfuré et décrié en Occident. Donc contrairement à la non-polarité ou au multilatéralisme, le centre de prise de décision dans le monde multipolaire n'est ni confié au monde occidental comme on l'a vu, les États-Unis et ses vassaux, il n'est pas non plus confié à un gouvernement mondial, l'ONU, le FMI, l'OMC, etc., ni à des instances de la société civile comme les ONG ou les mouvements sociaux. Le monde multipolaire considère que le pôle souverain de prise de décision doit être localisé quelque part ailleurs, en dehors, dans un endroit qui reste encore à définir. Alors, où peut être cet endroit de pôle souverain de prise de décision ? Eh bien, Dugin donne des pistes en reprenant le concept de civilisation de Samuel Huntington pour le mettre au cœur de la théorie de la multipolarité. Selon Dugin, il y a autant de pôles souverains de prise de décision dans le monde que de civilisations. Et selon lui, des civilisations potentielles qui n'ont pas encore émergé ont vocation à devenir des pôles du monde multipolaire. Donc la civilisation ici doit être comprise comme quelque chose transcendant l'État-nation. Elle est définie comme une communauté collective, unie par une tradition historique, symbolique, culturelle, mentale, spirituelle, et dont les membres sont conscients de leur proximité mutuelle, indépendamment même de leur appartenance nationale, politique, idéologique, ou même de leur classe sociale. Donc je cite l'auteur, « Au lieu de valoriser le rôle de l'acteur individuel, la multipolarité minimise son identité au profit d'identités collectives, variées, juridiques, sociales et asymétriques. » Ça c'est page 159. Donc selon Dugin, qui reprend Huntington, il y a des civilisations qui sont aujourd'hui facilement identifiables. La civilisation occidentale, bien sûr. La civilisation orthodoxe, qu'on peut aussi appeler eurasienne. La civilisation islamique. La civilisation hindoue. La civilisation chinoise, qu'on peut aussi appeler confucianiste. Et la civilisation japonaise. Dans les civilisations potentielles à venir, qui vont émerger ou qui doivent émerger, on a la civilisation latino-américaine, la civilisation bouddhiste et la civilisation africaine. Donc l'approche civilisationnelle multipolaire suppose que chaque civilisation est absolument unique. Il est impossible de trouver un dénominateur commun entre chaque civilisation. Donc elles doivent pouvoir définir ses propres conceptions de l'homme, de la société, de ses normes, de son histoire, de la politique, du temps, de l'espace. C'est à chaque civilisation de choisir son mode de vie et ses concepts de vie. Cette théorie du monde multipolaire considère donc que les civilisations sont les acteurs principaux des relations internationales à la place des États-nations. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Donc là, on est vraiment dans la théorie, on n'a pas la question pratique, la question de mise en œuvre concrète d'un pôle de pouvoir civilisationnel n'est pas établie dans ce livre. Il faut savoir que c'est un livre qui donne des pistes, en fait. C'est une théorie à venir, c'est une théorie en cours de construction. Là, il pose les jalons, il pose les bases, en fait. Donc voilà, à partir de la refondation du système westphalien, de la mise en avant du concept de civilisation pour en faire l'acteur clé du monde multipolaire, Alexandre Dugin jette les bases du concept du monde multipolaire dans sa conception eurasienne. Donc à partir de là, dans la dernière partie de son livre, Dugin alimente la construction conceptuelle du monde multipolaire en puisant dans les courants théoriques des relations internationales. Je vais vous épargner cette partie-là parce qu'elle est vraiment très théorique. Dugin est extrêmement pragmatique et il puise dans absolument tous les courants du domaine des relations internationales. Donc il puise dans le réalisme, dans le néo-réalisme, il puise dans l'école libérale, dans l'école anglaise, il puise dans les théories post-positivistes, dans les théories post-modernistes, dans les théories critiques, le féminisme, le marxisme. Vraiment le meilleur de chaque théorie du domaine des relations internationales pour l'intégrer dans son concept de monde multipolaire. Donc la démarche est assez scientifique, je trouve, j'ai trouvé en tout cas, et c'est très intéressant. Alors pour conclure, ce livre était extrêmement passionnant pour une théorie du monde multipolaire. Donc il est assez théorique, même plutôt universitaire, hein, je pense. Il est abordable vraiment à ceux qui ont peut-être quelques notions en relations internationales ou ceux qui veulent réfléchir un monde, une structure internationale alternative. Donc ce livre, c'était vraiment un début de réflexion, comme j'ai dit, on jette les bases d'un monde alternatif qu'il s'agirait de construire. Donc toutes ces idées ne sont absolument pas arrêtées, il n'y a rien de définitif. Alors personnellement, ce livre m'a un peu étonné, dans le sens où je pensais que Dugin était un horrible réactionnaire, un défenseur de l'État-nation, donc un horrible nationaliste, au sens strict. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, ou au moins sa pensée est beaucoup plus complexe que ça. Et il prend en compte, il acte le processus de mondialisation, qui est irrémédiable, hein. Le monde est de plus en plus connecté avec les technologies de transport, de connectivité. Donc lui, sa réponse au monde tel qu'il est, c'est une autre voie à l'unipolarité et une autre voie au gouvernement mondial, c'est le monde multipolaire. On dit que Dugin est ou était un proche conseiller du président russe Vladimir Poutine, mais on voit que dans les faits, ils ne sont pas tout à fait en phase, en tout cas sur les bases conceptuelles du monde multipolaire. Poutine semble défendre un retour aux bases westphaliennes des relations internationales, c'est-à-dire de la souveraineté stricte des États-nations pour mettre fin à l'unipolarité du droit américain, alors que Dugin, lui, veut refonder totalement et profondément les conceptions de Westphalie. J'ai trouvé intéressant de traiter de ce bouquin. Nous sommes dans une période inédite où le président américain Donald Trump lui-même bouleverse les institutions internationales et les structures du multilatéralisme, comme on l'a vu, pour revenir, il me semble, au traité de Westphalie, un peu comme Vladimir Poutine, et c'est d'ailleurs sur cette question que les deux présidents semblent assez en accord. Donc, une troisième voie est possible encore. Alexandre Dugin en propose une. Donc, une troisième voie intéressante à enrichir. Et voilà, c'est terminé pour cette première fiche de lecture. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé, c'est un peu théorique. J'espère surtout avoir été clair. N'hésitez pas à faire vos remarques dans l'espace commentaire, vos critiques aussi. Je m'en servirai pour m'améliorer, c'est quand même le but. La prochaine fiche, en tout cas, traitera, je pense, de l'anarchisme et de Proudhon. Voilà, ça s'inscrira plus dans l'actualité intérieure française, hein, avec le mouvement des Gilets jaunes. J'espère sortir la vidéo avant que ce mouvement soit totalement récupéré par le pouvoir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. C'est important, merci beaucoup, à la prochaine.